France Inter.
Vous qui m'écoutez en podcast, c'est l'heure de l'apéro. Mais oui, il n'y a pas d'heure pour ça. L'essentiel est d'avoir une bonne invitée. Eh bien, je reçois la philosophe politique Myriam Revaud-Dallone. On va parler de Macron, de Trump, de la démocratie et d'humour.
Bonjour.
Bonjour Myriam Revaud-Dallone.
Bonjour.
Enchantée.
Enchantée, moi aussi, je suis ravie.
Mais moi aussi, merci de venir à mon bistrot.
Ah bon?
J'ai un slogan pour notre conversation, la philo au bistrot. Ça vous va?
Ça me va très bien.
Sauvé. Je vous présente l'équipe de Bistroscopie, ils vont se présenter eux-mêmes.
Bonjour,
je suis Ophélie, programmatrice.
Bonjour, François Audouin, habilleur sonore de Charline.
Bonjour.
Bonjour, Marc Garvenès, attrapeur de son.
Attrapeur de son. Ils sont créatifs dans cette émission. Venez vous installer, Myriam.
Charline Vanhoenacker. Bistroscopie sur France Inter.
La philo au bistrot, donc. Myriam Revaud-Dallone, vous êtes professeure émérite des universités à l'École pratique des hautes études et chercheuse associée au CEVIPOF, le Centre de recherche de Sciences Po. Alors, on est dans un bistrot, Myriam. Est-ce que le bistrot, ce ne serait pas l'espace le plus démocratique qui existe?
Alors, oui. Alors, si on considère que le bistrot, ça fait partie de l'espace public, après tout, que c'est l'endroit où les gens se rencontrent, se parlent hors de chez eux, on peut tout à fait dire ça. Mm-hmm. Le bistrot étant, au fond, l'héritier de la place publique, de l'agora chez les Grecs. Et d'ailleurs, au XVIIIe siècle, la naissance de l'espace public, eh bien, ça s'est fait beaucoup dans les cafés.
Myriam Revaud-Dallone, dites donc, moi j'aimerais bien savoir un truc. Pourquoi vous avez choisi la démocratie comme objet d'étude?
Alors, en fait, je n'ai pas commencé à travailler sur la démocratie, hein, parce que mes premiers textes, où la démocratie est venue comme une espèce de conséquence, je dirais, de travaux qui étaient beaucoup plus lourds. J'ai commencé à travailler sur le mal, sur la terreur.
Ah bon?
Oui, j'ai fait ma thèse sur la terreur révolutionnaire. Ça n'était pas de l'histoire, c'était déjà de la philosophie politique. Et ensuite, je me suis au fond interrogée sur la question du mal politique, sur les moyens de faire face au mal politique. Ça, c'est la première raison de mon travail sur la démocratie. Et la deuxième, c'est que quand j'ai commencé à faire de la philosophie politique, quand j'étais étudiante, c'était une époque où le marxisme althussérien était très, très dominant. Je dois dire que ce n'était pas vraiment ma tasse de thé.
Ah oui. Vous n'étiez pas pote avec Jacques Rancière?
Je le connaissais, mais bon. Mais moi, j'ai été formée, ou j'ai été très, très marquée par les penseurs antitotalitaires, de la gauche antitotalitaire. J'ai été très marquée par Ricoeur, par Claude Lefort. Mmh. Et,
Ricoeur, le pote de Macron?
Oui, on va certainement en parler.
Il s'est revendiqué, en tout cas,
voilà. Bon,
comme un peu un disciple.
Donc, c'est pas... mais moi, j'ai beaucoup travaillé avec Ricoeur. J'ai été à la fois son élève et aussi son ami, mais ça, c'est quelque chose de plus personnel. Et donc, j'ai été très marquée par ce courant de la gauche antitotalitaire qui attachait une importance considérable à la démocratie politique. Mmh. Et qui pensait que la fin de l'exploitation n'allait pas résoudre tous les problèmes. Et donc, j'ai aussi beaucoup travaillé sur la question du mal, du pouvoir, de toutes les difficultés relatives à la domination politique et pas seulement à l'exploitation économique. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur la démocratie.
Et vous êtes entendu par ceux qui nous dirigent? Est-ce que vous avez rencontré des présidents de la République?
Non, on fait de la philosophie politique, mais on n'est pas écouté par les politiques.
Mais alors que vous pourriez aider à améliorer la démocratie?
Oui, mais manifestement, d'abord, moi, je ne me vis pas du tout comme un conseiller du prince.
Mm-hmm. Hein, c'est pas votre genre?
C'est pas mon genre. Et puis les conseils que peuvent donner les philosophes aux politiques ne sont pas toujours très, très avisés. Quand on voit que, par exemple, Platon a conseillé le tyran Denis de Syracuse... beaucoup de philosophes s'installent dans ce qu'on appelle une position de surplomb ou de royauté philosophique. Et en fait, c'est assez récent que la chose politique soit devenue véritablement un objet fondamental.
Voilà. Pourtant, Sarkozy l'a un peu écouté BHL.
Alors, oui, mais enfin bon, voilà, moi je ne suis pas dans la position de
Ça n'a pas donné que des bons résultats, quoi.
Voilà, il a écouté, bon, je ne sais pas, mais en général, les politiques n'écoutent qu'eux-mêmes.
Ah oui, effectivement. Et peu de temps après l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, c'était en 2017, vous essayez de le cerner, de le scanner. Vous trouvez que c'est une nébuleuse. Et après l'avoir scanné, vous publiez « L'esprit du macronisme » paru au Seuil en 2021, où vous relevez que c'est l'homme du « en même temps, ni de droite ni de gauche, nouveau monde », etc. Et vous déduisez une plasticité du discours néolibéral, une conception managériale de la société. Alors je me demandais, est-ce qu'aujourd'hui on est 7 ans plus tard, est-ce que votre intuition était la bonne ?
Ah, je pense que oui. D'ailleurs, ce qui est très étrange, c'est que, en fait, ce que j'avais développé en 2021 a été progressivement repris de façon systématique, même dans la presse, et que c'est presque une espèce de vulgate. Et alors, ce qui m'avait immédiatement frappé, c'est l'idée que le « en même temps », c'est quelque chose d'antipolitique. Fondamentalement d'antipolitique.
Ah bon, pourquoi ?
Ben parce que la politique, elle se joue sur des conflits, non pas sur la guerre, mais sur le conflit, c'est-à-dire sur la démocratie, c'est une culture du désaccord. Ce sont des gens qui négocient sur des positions qui sont des positions différentes ou divergentes, qui passent des compromis, mais l'idée que le conflit est une notion centrale et c'est quelque chose qui ne s'arrête absolument jamais. Alors dire en même temps, pour moi, ça a été une négation de la politique. C'est-à-dire une négation de... Oui, bien sûr. Et c'est pour ça aussi que, au fond, ça ressemblait, et d'ailleurs, tout le monde l'a reconnu après, mais assez rapidement, à ce qu'on fait dans une entreprise où on règle... Il n'y a pas de conflit, où on règle les problèmes pour que ça marche mieux. Et l'efficacité est le critère fondamental. Ouais. Or, la politique, évidemment, il faut que ça marche. Évidemment, mais une nation, c'est pas une entreprise, et la nation, c'est pas une start-up. Alors, on sait combien Macron a souhaité que la nation devienne une start-up, fonctionne comme une start-up.
C'est un manager de la République.
Ben voilà, c'est un manager de la République.
Et ça, happiness manager de la République.
Maintenant, je pense pas tellement.
En tout cas, 7 ans plus tard, et au moins 3 promesses de barrage plus tard, l'extrême droite, elle n'a jamais été aussi proche du pouvoir. À ce sujet, vous parlez de l'eupénisme d'atmosphère. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? C'est comme l'esprit héroïque, il y a des diffuseurs de l'eupénisme pour vaporiser dans l'air ?
Eh bien, l'eupénisme d'atmosphère, c'est-à-dire que les idées du Front National se sont d'une certaine façon banalisées, à tel point que des positions qui paraissaient absolument scandaleuses sur les étrangers, que des positions xénophobes, par exemple, ou qui paraissaient des positions scandaleuses, deviennent maintenant, au fond, elles sont dans l'air du temps. Et par exemple, il y avait la démocratie, elle est fondamentalement attachée à l'état de droit, hein, à la séparation des pouvoirs. Et on voit que maintenant, on a un ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, qui, quand il parle, confond l'état de droit et l'état du droit, ce qui est assez inquiétant. Hein, parce qu'effectivement, l'état du droit, ça peut changer. On peut changer la législation. Mm-hmm. Mais l'état de droit, c'est le socle inamovible de la démocratie.
C'est un principe.
Donc, c'est un principe fondamental. Le principe c'est-à-dire que Montesquieu se retournerait dans sa tombe, hein, s'il entendait que l'état de droit, c'est quelque chose qui n'est pas sacré, qui n'est pas intangible. Bon, il faut quand même voir à quoi on a affaire. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à le dire, Marine Le Pen aussi. Elle ne parle pas de l'eupénisation des esprits, mais après le vote de la loi sur l'immigration, elle a dit « on a gagné la bataille des idées ». Donc c'est ça que j'appelle la l'eupénisation des esprits. Alors maintenant, il faut voir ce que c'est que la bataille des idées, c'est un peu plus...
Oui. Ce qu'on appelle la bataille culturelle, voilà. L'hégémonie culturelle, tout ça. Mais ça, c'est la théorie du communiste Gramsci. Alors, parce qu'on parle de gramscisme de droite aujourd'hui, ça voudrait dire que...
C'est-à-dire que Gramsci avait... Le communiste italien Gramsci avait élaboré une théorie très intéressante, d'ailleurs, en disant que... Il fallait gagner la bataille des idées, hein, que pour s'imposer, il suffisait pas de prendre le pouvoir, mais qu'il y avait des idées absolument fondamentales qui devaient s'imposer, ce qu'on appelle la bataille culturelle. Et alors, pendant très longtemps, on a considéré, ce qui était d'ailleurs assez je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait vrai, mais enfin que c'était la gauche qui avait gagné la bataille culturelle, qui avait une sorte d'hégémonie des idées de gauche, ce contre quoi l'extrême droite s'est insurgée. Et c'est vrai qu'ils ont fait un effort considérable via un certain nombre de médias que nous connaissons.
Oui, je vois bien.
Pour remporter cette bataille culturelle. Mais ce qui est assez intéressant, au fond, c'est que c'est pas tellement une victoire sur le plan des idées fondamentales, c'est plutôt quelque chose comme une banalisation, je dirais, de thématiques qu'on fait passer pour relever du sens commun, enfin du bon sens.
Oui.
Et ça, c'est pas vraiment des idées, comment dire, très sophistiquées, si je puis dire.
Ou alors, ils prennent une idée, ils renversent les valeurs.
Voilà, tout à fait.
Alors, donc, intellectuellement, c'est pas intéressant, c'est comme retourner une crêpe, en fait.
C'est-à-dire, oui, et alors, la gauche est prise dans une espèce de piège où elle dit qu'il ne faut pas laisser à la droite le privilège de porter un certain nombre de thématiques, ce qui est tout à fait vrai, parce que bon, la nation, c'est un thème fondamental, l'immigration, c'est un thème fondamental, l'injustice sociale, c'est un thème fondamental. Alors, en fait, l'extrême droite s'empare de ces thématiques et en fait, des espèces de slogans où les idées sont un peu vidées de leur contenu.
Ouais.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Alors, on est parti de cette discussion sur la bataille culturelle, bataille-conflit, je sais que donc c'est une condition de la démocratie. Oui, c'est deux choses différentes. Hein. C'était juste parce que bataille et conflit, ça s'arrangeait bien pour ma transition, hein, je trouve. Mais comme les rappeurs et les humoristes, vous avez une punchline qui dit « La politique, ce n'est pas le consensus, mais l'exercice du conflit ». Vous en avez touché un mot.
Oui.
Mais moi, je viens de l'Europe du Nord. Et chez moi, la politique, on dit que c'est l'art du consensus. Et chez moi, on fonctionne avec le compromis. Et on fait des gouvernements de coalition. Alors ça me chiffonne un peu, cette histoire.
Mais il n'y a pas du tout de contradiction. Hein, parce que quand je dis l'exercice du conflit, ce n'est pas forcément des positions absolument antagonistes, irréconciliables, qui se font face. Mmh. C'est aussi une manière à la fois de voir comment est-ce qu'on peut... il faut négocier. C'est évident qu'il faut négocier dans la démocratie libérale. Je dirais plutôt que c'est un art de la négociation sur lequel on essaye de ne pas céder sur des positions de fond. Alors, toute la question est de savoir avec qui on peut gouverner et avec qui on peut négocier. Alors, quand on parle maintenant, par exemple, de l'arc républicain, ce qui ne veut plus dire grand-chose, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut... On a posé la question après la dissolution. Mm-hmm. Avec qui est-ce qu'on peut gouverner? Est-ce qu'on peut gouverner avec le Rassemblement national? Là, il y a les incompatibilités de principes fondamentales telles que ça n'est pas possible. C'est-à-dire, quand par exemple...
On ne peut pas négocier avec
eux. On l'a vu, ouais. C'est très difficile. Ouais. Quand on voit que Marine Le Pen, par exemple, s'attaque fondamentalement à l'État de droit, qu'elle veut limiter les contre-pouvoirs, qu'elle veut limiter les prérogatives du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que ce sont des conceptions de la démocratie qui sont, et de la souveraineté du peuple qui sont absolument incompatibles. Donc c'est très compliqué. Mmh. Il y a un art de la négociation et du compromis, moyennant certaines conditions et dans certaines limites. Alors, en Europe du Nord...
On y passe des années parfois, Myriam.
Voilà, exactement. Mais c'est pas tellement, c'est une banalité de le dire, c'est pas tellement la culture politique française.
Hein. Non ?
Parce que la culture politique française, moi je suis très très frappée que, je parle pas simplement de la démocratie, l'espèce de face-à-face entre le citoyen et le pouvoir, c'est quelque chose qui s'installe dans la longue durée depuis le pouvoir monarchique.
C'est de là que ça vient. Voilà. Dites, quand on parle de conflit, c'est quand même ce que revendique pratiquer Mélenchon, le conflit permanent.
Alors moi, je pense qu'il a distordu, qu'il a complètement perverti justement la notion de conflit. Parce que quand il a... Je me souviens très bien de cette phrase qu'il a prononcée. Et lui, ce qu'il entend par le conflit, c'est la guerre.
C'est la bagarre.
Guerre, c'est-à-dire en fait... si je pouvais l'exprimer autrement, je dirais qu'un conflit démocratique, ça met en présence des adversaires et non pas des ennemis. Il y a une différence absolument fondamentale.
Ah oui. Dites, quels espaces existent alors pour cette confrontation politique aujourd'hui? Quels espaces? Est-ce qu'il y a l'Assemblée, BFM TV, les dîners de famille? Sont où les espaces publics de confrontation?
Ça, c'est une question très désespérante.
Ah oui? Ah non.
Bon,
les repas de Noël. Ça se passe comment à Noël chez vous, à la maison? Ça se bagarre, des idées ?
Alors, écoutez, même à l'intérieur des familles, quelquefois, ça n'est pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une culture du débat qui s'est complètement érodée. Et c'est assez difficile, maintenant, de dialoguer des positions adverses. Et c'est là où, par exemple... Bon, alors, l'Assemblée nationale, maintenant, ça peut éventuellement... Mmh. redevenir un espace de débat puisque c'est le pouvoir a basculé du côté maintenant pouvoir parlementaire et de l'Assemblée, donc ça pourrait, mais il faut voir. Puis il y a quand même quelque chose qui devient, que tout le monde constate et qui devient difficile, c'est qu'on ne parle plus qu'avec les gens qui sont d'accord avec soi. C'est-à-dire que la culture du désaccord est extrêmement ébréchée, attaquée, atteinte.
Mais pourtant, on a l'impression qu'il y a des débats tout le temps, partout. On baigne dans les débats antagonistes. On parle de polarisation, etc.
Mais oui, justement, mais la polarisation, c'est de faire s'affronter des positions qui disent « moi, je pense ça » en face de quelqu'un qui dit « oui, moi, je pense autre chose » et qui très souvent ne communique pas.
Personne n'ose se laisser convaincre
C'est très difficile. Moi, j'ai fait l'exercice... très sophistiqué avec Chantal Delsol sur la démocratie.
Ouais, qui n'est pas réputée pour être à gauche. Hein.
Et alors,
qui est plutôt
oui,
bien
mais
à
alors
droite.
Justement, c'est ça, ça c'était très intéressant. Ouais. Et alors en fait, je crois qu'il valait mieux le faire à distance et par écrit. Moi je trouve que c'est une très très bonne
à distance,
idée.
Sinon vous lui foutez une beigne ou quoi?
C'est plus difficile de confronter des... D'abord, il faut quand même un certain temps et quelques pages, même si les livres sont très courts, il faut quelques pages pour pouvoir exposer ses positions. Et c'est vrai que parfois, on lit des choses, il faut prendre un peu de temps pour arriver à répondre. Mais je prenais cet exemple-là parce que ce qui est intéressant, c'est que chacune d'entre nous, on a poussé nos différends aussi loin que possible. Mais ça n'était pas pour se convaincre mutuellement, c'était plutôt pour expliciter les raisons pour lesquelles on n'était pas d'accord. Et à la fin, on est arrivé, enfin, elle aussi d'ailleurs, parce qu'elle n'a pas bougé d'un iota, et moi non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est d'arriver à expliquer, à expliciter, à développer les raisons pour lesquelles... Par exemple, on parle toutes les deux de la démocratie, et ça ne veut absolument pas dire la même chose. Pour elle et pour moi, la démocratie, c'est pas la même chose.
C'est publié dans une collection qui s'appelle La Disputation.
Voilà, et c'est très intéressant.
Chez Miel et Barreau.
Chez Miel et Barreau, voilà.
Chantal Delsol, Myriam Revaud-Allonne. Et donc, il est là, l'espace de confrontation des idées. On a trouvé la solution, c'est le livre ou l'écriture. Ou l'échange épistolaire.
L'échange épistolaire, mais c'est pas mal ça d'ailleurs. Moi ça m'a beaucoup plu. Le fait que ce soit des échanges de lettres, c'est très agréable. D'abord on a l'impression de se retrouver au XVIIIe siècle.
Mais oui. Avec une plume un peu d'encre.
Voilà.
Oh là là.
Et donc,
vous avez un côté romantique, hein, Myriam.
Et on s'adressait comme ça, on disait « Cher Chantal, chère Myriam ». Alors en se vous voyant, mais tout à fait, ça a un côté marquise du XVIIIe, vous voyez le genre.
Charline Vanhoenacker. Bistroscopie sur France Inter.
On poursuit la conversation avec Myriam Revaud-Allonne, philosophe du politique. Tiens, au fait, comme la démocratie, c'est vraiment votre truc, Myriam, l'état de la démocratie en France, genre sur une échelle de 1 à 10, comment ça va en ce moment? Est-ce qu'il y a un malaise?
Il y a toujours eu un malaise dans la démocratie.
Ah, ça fait partie de la démocratie, le malaise?
Ça fait partie de la démocratie. La crise est inhérente à la démocratie. Hein, parce que ce qui est très intéressant dans la démocratie, quand elle fonctionne bien, c'est qu'on va toujours tout remettre en jeu. C'est-à-dire que rien n'est jamais donné une fois pour toutes.
Bon. Il vaut mieux le savoir.
Non, oui, bien sûr. Et en fait, la démocratie, elle ne promet pas les paradis à venir. Hein. Ce n'est pas comme des régimes totalitaires, le paradis sur Terre. Non, elle ne promet pas ça du tout. Elle essaye d'assurer aux gens les meilleures conditions possibles pour vivre ensemble. Elle s'occupe pas de leur, normalement, elle s'occupe pas de leur vie privée, mais elle leur donne la possibilité de mener la vie la meilleure possible, d'une certaine façon. Mais les conditions de possibilité, après, bon.
Et dans le malaise démocratique actuel, parce qu'il prend différentes formes en fonction du temps, le fait que Michel Barnier soit Premier ministre avec le gouvernement qui l'entoure, est-ce que ça peut démobiliser au moment du vote et avoir une conséquence démocratique?
Bah, de toute façon, oui, bien sûr, parce qu'on le dit, et ça, c'est vraiment pas un propos, comment dire, d'une hauteur philosophique extraordinaire. On sait très bien que les gens se sont souvent fait violence pour voter au moment des législatives. Bon, ce qui est très gênant, c'est que le gouvernement soit composé en grande partie de républicains, c'est-à-dire de gens qui, en fin de compte, ne se sont pas associés au moment des législatives au front républicain et qui ont défendu la position du ni-ni. Et donc, le malaise vient de là. Et en fait, les gens peuvent vivre ça comme un déni de démocratie. Parce que vous me demandez ce que les gens vivent. Alors, au niveau de leur vécu, ce qu'ils vivent, c'est que d'une certaine façon, une décision a été prise qui ne les écoute pas. Or, l'un des leitmotifs permanents de ce que disent les gens, et qui alimente d'ailleurs le vote du Rassemblement national, c'est « on ne nous écoute pas ». On ne nous écoute pas, les politiques ne nous écoutent pas. Donc c'est une raison de plus pour se désintéresser de la politique, pour penser qu'au fond, vivre en démocratie ou pas, ça n'a pas tellement d'importance. Il y a eu des sondages qui sont des sondages assez inquiétants de ce point de vue-là, en particulier le sondage qui était paru dans Le Monde, et puis les sondages réguliers du CEVIPOF, de Sciences Po, où les gens maintenant manifestent au fond une indifférence de plus en plus grande au contenu politique, en disant, pourvu que ça marche, ce qu'on privilégie, c'est l'efficacité. Bon, donc, il y a une sorte... La démocratie est un peu vidée de son contenu politique. Et alors, vous voyez, le danger, c'est le raisonnement qu'ils disent... parce que ça a été très, très entendu au moment... On va voter pour le Front National, on n'a jamais essayé, pourquoi ne pas essayer ? Pourquoi pas essayer ? Mais la démocratie, ça ne s'essaye pas comme un pantalon ou une chemise. Hein. C'est ça qui est extraordinaire.
Ou une chaussette.
Ou une chaussette.
Ou un slip.
Là, je viens d'y penser en vous parlant. Ouais. Mais la métaphore de l'essayage, c'est quand même...
Elle est pas mal.
Elle est pas mal. Hein. On n'a jamais essayé, on va essayer.
Mais oui. Mireille, on va boire un coup là-dessus.
Oui, une orange pressée, sans trop de glaçons.
Elle disait à l'antenne, mais elle m'a dit un ginto en antenne, mais bon. Et moi, je vais prendre une ginger beer, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Myriam Revaud-Allon, vous avez aussi publié un ouvrage qui s'intitule « La faiblesse du vrai », paru au Seuil en 2018, sur la post-vérité, donc quand les faits objectifs ont moins d'importance que leur interprétation, on va dire. Et alors là, attention, j'ai une question, concentrez-vous, hein, parce qu'on est à l'approche des élections américaines. Et Elon Musk, qui est le patron du réseau social X Twitter, qui veut envoyer l'homme sur Mars. Il soutient Trump, dont les électeurs sont persuadés qu'on n'a jamais marché sur la Lune. C'est un sujet pour vous, ça. Qu'est-ce qui cloche là-dedans ?
Oui, voilà, c'est-à-dire que la post-vérité, c'est pas le mensonge. Hein, parce que quand on ment, bon, on dit autre chose que la vérité, on dit le contraire de la vérité, mais on n'abolit pas la vérité, on ne détruit pas la vérité. La vérité, elle reste une norme. Je dis une contre-vérité. Quand je mens, je dis une contre-vérité. Alors que là, avec la post-vérité, vous prenez l'exemple de Trump, on est au-delà du réel. Là, je prends un exemple très concret. Quand Trump, au moment de son discours d'investiture, Trump a dit deux choses. Après, il a dit que quand il avait commencé à parler, le soleil était apparu. Et quand il avait fini de parler, il avait recommencé à pleuvoir. Et c'était absolument faux, puisqu'il n'a plus des cordes pendant tout le temps. Et quand les journalistes ont objecté à sa conseillère qu'il n'avait plus des cordes, la conseillère a répondu « Oui, mais il y a une réalité alternative. » Voilà, il y a une réalité alternative qui n'est pas la vérité factuelle.
Et lors du débat avec Kamala Harris, quand il dit que les Haïtiens mangent les animaux domestiques, voilà. C'est post-vérité,
c'est
fait alternatif, fake news.
Il y a quelque chose de délirant, effectivement, de totalement délirant dans la fabrication de cette réalité qui est une réalité alternative et qui est liée au fait que n'importe qui s'autorise à dire n'importe quoi.
Mais elle est vainqueur, là, pour l'instant. La réalité alternative, où elle grimpe très très fort, en même temps que le populisme.
Elle grimpe très fort, puisque manifestement... Alors, c'est aussi un problème, c'est un problème qu'on a relevé avec le fact-checking chez les journalistes. Les journalistes ont beau faire du fact-checking, de la rectification, ça suffit pas. Dans tous les journaux, maintenant, il y a des fake news.
Enfin, pour une fake news qui est dite en un quart de seconde, il faut des kilomètres d'heures de vérification. On est perdant d'avance.
Avec les réseaux sociaux. Donc, en fait, c'est pas sans rapport avec les atteintes portées à la démocratie. Parce que dans une démocratie qui fonctionne, Il y a un exercice du jugement qui est requis, les citoyens. Ils doivent... On ne vise pas la vérité, mais on essaye d'exercer son esprit critique. La démocratie, elle est absolument indissociable de l'esprit critique, de l'échange, de la discussion. Or, là, manifestement, l'esprit critique est quelque chose qui, le jugement critique, qui n'a plus aucune importance, puisqu'on a affaire à des positions où les gens disent « moi, je pense ça », l'autre dit « moi, je pense autre chose », et leur rapport au réel est complètement absent. Donc, on le voit très bien avec l'histoire des chats, les Haïtiens qui mangent les chats, et avec les images de synthèse, on est capable, avec l'intelligence artificielle, on peut fabriquer des images qui se substituent à la réalité.
Ouais.
Voilà. Donc, mais ce n'est pas seulement un problème intellectuel, je pense que c'est un problème profondément politique. Les deux sont liés. Et je crois que c'est ce qu'on ne voit pas suffisamment. L'idée que le mensonge a toujours été une arme du pouvoir, que les politiques mentent pour... Ça, c'est une idée qui est aussi ancienne que la politique. Bon. Mais le problème de la post-vérité, c'est pas ça. C'est qu'il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus de vérité, tout ça n'existe plus, on est d'une certaine façon au-delà.
C'est-à-dire que le
vrai n'est plus une norme à laquelle on puisse confronter quoi que ce soit. Donc là, il y a quelque chose d'absolument inédit et d'un peu, et je pense, d'une gravité extrême, parce que ça fait que c'est pas un problème intellectuel seulement, ça veut dire que les gens ne peuvent pas se parler. Parce que par exemple, si on parle toutes les deux, et qu'est-ce qui se passerait si je supposais à chaque instant que vous dites absolument n'importe quoi et que je ne dois pas vous croire? Et moi, pareil, on pourrait pas discuter.
Est-ce que c'est pour ça que beaucoup de nos politiciens qui prennent la parole dans les médias commencent leur phrase par « il faut dire la vérité aux Français ». Il faut que je tienne un discours de vérité aux Français, il faut qu'ils sachent la vérité. Et puis, ils commencent leur phrase.
Oui, pour justifier d'une certaine façon. C'est-à-dire, en fait, en général, quand les politiques disent qu'il faut tenir un discours de vérité, ça veut dire qu'il faudra faire des sacrifices. C'est ça que ça veut dire.
Ah, vous avez raison.
C'est-à-dire, quand il faut tenir un discours de vérité, ça veut dire. Que... En général, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est toujours sur le plan économique que ça se passe. Ça veut dire on dépense trop d'argent, il y a trop d'argent pour les discours de vérité. Ça veut dire serrez-vous la ceinture. Il va falloir se serrer la ceinture au nom de l'intérêt général.
À vous, on ne vous la fait pas à l'envers, hein, Myriam Revaud-Allonne, je remarque.
Pas vraiment, non.
Dites Myriam Revaud-Allonne, on sait peu de choses de vous. Tout ce que je sais, c'est que vous êtes fille d'immigrés juifs polonais.
Oui, absolument. Mais vous avez lu ça dans le dialogue avec Chantal Dessol.
Ouais.
Parce que, mais je j'aime pas beaucoup parler de moi. Je parle très peu à la première personne. Mais j'ai dit ça parce que, comme elle expliquait que la démocratie, c'était la culture judéo-chrétienne, l'Occident, etc., et qu'il y avait tout un développement sur les étrangers, donc. J'ai répondu que pour moi, la démocratie, ça n'était pas ce qu'elle est. Moi qui suis une fille de juifs polonais immigrés, qui en plus ai perdu toute ma famille dans la Shoah. Donc voilà, mais c'est quelque chose... j'ai peut-être fait de la philosophie et de la philosophie politique pour parler de ça, mais avec une certaine distance. Vous parliez de l'humour, et moi, la réflexion m'a permis peut-être de me décaler aussi par rapport à une situation personnelle difficile.
J'allais vous demander en quoi ça conditionnait vos choix d'études.
M'intéresser à la politique et à la démocratie, pour moi, c'est fondamental.
C'est pour ça que vous tenez beaucoup à la démocratie.
Absolument, parce que je me demande toujours à quelles conditions et quelles sont les conditions de possibilité qui font que, précisément, ce genre de catastrophe peut être évité. Et donc, et pour moi, je ne dirais pas que la démocratie est un rempart, mais elle est une condition absolument fondamentale de la façon dont les hommes vivent les uns avec les autres. Donc, effectivement, ça a conditionné mon... Puis moi, je viens d'une famille qui était extrêmement politisée.
Ah oui ?
Oui, très politisée, mais pas du tout comme moi.
Ouais.
Bon.
Impliquée en politique ou simplement très au fait ? Ah, voilà. On y vient.
Et donc, d'une certaine façon, la lecture du journal était quotidien. Enfin, l'intérêt pour la politique, les discussions.
Donc, c'est militant dans quel sens?
Communiste.
Ah oui.
Des militants, des juifs communistes, assez caractéristiques. Enfin, voilà. Et donc, j'ai été élevée là-dedans. Et donc, évidemment, ça m'a permis de virer ma cutie très tôt par rapport à un certain nombre de choses. Mais l'intérêt pour la politique et pour la philosophie politique, je crois qu'il est très enraciné chez moi.
Ah ouais. On comprend mieux.
Voilà, mais je parle très peu de moi.
Ouais, je comprends. Alors, j'ai une dernière question pour vous, pour clore cet entretien, Myriam Revaud-Allonne. Est-ce que étudier la démocratie, ce sera bientôt un travail plus pour les philosophes, mais pour les archéologues?
J'espère que non. Écoutez, je souhaite, après ce que je viens de vous dire, je crois que, comment dire, c'est une condition fondamentale de ne pas y renoncer, de persévérer, de s'obstiner même.
Persévérons, merci. Merci Myriam Revaud-Allonne. Et pour développer l'esprit critique, je conseille vos livres, bien sûr, parus au Seuil, par exemple « La faiblesse du vrai » ou « L'esprit du macronisme » qui est toujours d'actualité.
Merci à vous.
Merci. Ainsi s'achève Bistroscopie. Merci à Rémi Sistiaga au mixage. N'hésitez pas à réécouter les précédents épisodes sur l'application Radio France. Je vous retrouve, moi, en direct samedi prochain à 19h20.